Je suis désolée, il faut qu'on parle. Je vais tout expliquer. Maud, je l'ai tué.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture. Sans oublier nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 36e édition de Roman de Gare, j'ai le plaisir d'accueillir l'autrice ligérienne Christelle Duchamp, dont le dernier roman « Où tu seras reine » est paru le 17 janvier 2025 aux éditions Verso. Christelle, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à toutes et tous.
Tu préfères le mot autrice, romancière ou écrivaine lorsqu'on te présente?
Oh là là, c'est toujours la question piège. Moi, je me présente comme une autrice. Après, bon, c'est vrai que les trois sont possibles, mais autrice, ça me va bien.
Bien. À l'enfance et à l'adolescence, tu as quel souvenir d'écriture, que ce soit à l'école ou à la maison?
Alors, l'écriture, elle a toujours été très présente dans ma vie. Et même quand j'étais toute petite, j'ai des souvenirs de... j'ai 8 ans, j'écris ma première petite histoire, une petite nouvelle qui m'est inspirée par un tableau que je vois à l'époque, et un tableau de Waterhouse. Et ce tableau m'inspire une histoire que j'écris. L'écriture a toujours été là, après, que ce soit sous forme de conversation épistolaire avec des amis, que ce soit au travers de la poésie. J'écrivais beaucoup de poèmes, des petites chansons. Et après, avec mon entrée au collège en 6e, j'ai écrit un petit recueil de 4 nouvelles que j'avais fait relire à ma professeure de français à l'époque, qui m'avait encouragée d'ailleurs. Donc l'écriture, d'aussi loin que je me souvienne, elle a toujours été présente dans ma vie.
L'écriture était déjà noire?
Oui. Elle était déjà noire, noire comme elle peut l'être chez une enfant de 8-10 ans, bien sûr. Mais pour avoir retrouvé dans des cartons chez mes parents ces nouvelles-là, oui, il y avait ce côté sombre, ce côté enquête. Moi, j'étais une férue d'Alice Détective, donc mes histoires étaient teintées un petit peu comme ça d'enquête policière, de mystère, parfois aussi avec des fées, des personnages un petit peu énigmatiques. Donc oui, elle était déjà noire et fantastique.
Tu as suivi donc des études de communication à Lyon avant de devenir graphiste. C'était plus facile pour toi de communiquer de manière visuelle, dessiner plutôt qu'écrire?
Je pense m'être dit que autrice, c'était pas un métier, c'était plutôt une passion. Et à aucun moment, je me suis posé cette question de me dire, après le bac, je vais être autrice, en fait. Il fallait trouver, entre guillemets, un vrai métier. Donc, j'ai mis à profit ma passion pour la création et pour les images aussi. Je me suis dit, je vais faire du graphisme. Mais c'était mettre ma créativité au service d'un métier. Et comme je ne m'imaginais pas le faire au travers du métier d'autrice, je l'ai fait en étant graphiste.
Dans les outils de l'infographiste, il y a la typographie et le vocabulaire. On est proche de l'écriture, même si la forme a son importance.
Oui, complètement. Et c'est vrai que ça, c'était un de mes points forts quand j'étais en études supérieures pour devenir graphiste. C'est qu'en fait, j'étais assez forte pour tout ce qui était slogan, accroche, rédaction de contenu publicitaire. Ça, j'avais toujours le bon mot, la bonne tournure. Et je crois que mon aisance dans la langue française et mon aisance dans la rédaction m'aide aussi aujourd'hui encore au quotidien dans mon métier de graphiste. Mais c'est vrai que les mots ont leur utilité, carrément, hein, puisqu'on a tous en tête des slogans comme ça de marques connues. Donc les mots ont leur importance, même s'ils sont ensuite associés aux images. Alors qu'avec l'écriture à 100%, donc dans un roman, il faut qu'on les génère, les images. Il faut que l'auteur suscite des images dans l'esprit des gens pour qu'ils puissent s'immerger au mieux dans le roman.
Quand es-tu passé de l'écriture de nouvelles à l'écriture de romans?
Alors, l'écriture de nouvelles, j'ai beaucoup écrit étant petite et ado, j'ai laissé un petit peu tomber l'écriture en devenant un petit peu adulte, parce que avec les études supérieures, avec la vie familiale, la vie perso et la vie professionnelle qui se charge un petit peu, c'est vrai que le passe-temps écriture a un petit peu disparu de ma vie. En revanche, je restais une très très grosse lectrice, donc la littérature m'accompagnait toujours au quotidien, mais c'était plus par le biais de la lecture que de l'écriture. Et en fait, l'envie d'écrire, elle est revenue en 2012, où là, j'ai repris un peu la plume en écrivant des nouvelles, puisque finalement, j'avais arrêté, entre guillemets, d'écrire avec des nouvelles. Donc, j'ai un petit peu repris là où j'en étais, et j'ai écrit une dizaine de nouvelles. Voilà, j'avais des idées qui trottaient dans la tête. Et je ne me sentais pas le courage, ces idées-là, de les développer pour en faire un roman. Courage dans le sens où je ne savais pas comment procéder. Je ne savais pas si ces sujets et ces idées étaient assez intéressants et assez denses pour en faire finalement un roman de 300, 400 pages. Donc, je me suis rabattue sur la nouvelle en me disant, je vais quand même pouvoir raconter, avec ces idées, je vais pouvoir raconter des petites histoires, mais sans avoir trop la contrainte de la longueur, en fait. Et l'année d'après, donc j'ai auto-édité ces 10 nouvelles sous un compte qui s'appelait Le Miroir aux Nouvelles. C'est vraiment une petite structure éditoriale que j'avais montée toute seule avec mon conjoint à l'époque. Et un an après ce recueil de nouvelles, je me suis lancée dans la rédaction d'un roman court. Donc vraiment, tu vois, on saute les étapes petit à petit. Là, un roman court qui faisait 120 pages. Mais voilà, qui était un peu plus long que mes nouvelles de 20 pages. Il y avait une petite marche qui était montée. Et puis ensuite, je me suis lancée dans la rédaction d'un polar, où là, on était sur une plus grosse pagination. Donc vraiment, le passage de la nouvelle au roman s'est fait en douceur et s'est fait en montant les marches petit à petit, en fait, en y allant tout doucement.
Sur Babelio, il est écrit que tu as publié ton premier roman, L'Art du Meurtre, aux éditions de l'Archipel. Que sont devenus les autres romans parus avant? Tu ne les revendiques plus?
Alors, si j'en parle parfois, mais c'est vrai que comme ils ne sont plus disponibles, puisque j'ai écoulé tous les stocks, c'était des tout petits tirages, hein, c'était entre 100 et 300 exemplaires pour certains, du coup, j'ai plus d'exemplaires en ma possession. Donc, c'est difficile d'en parler parce que souvent, quand j'en parle, les gens sont curieux et aimeraient s'en procurer un exemplaire. Donc, voilà, parfois, il y a de la frustration parce que j'en ai plus à dispo. Mais je suis fière quand même de ce que j'ai produit par le passé en auto-édition, même si bien sûr quand je regarde en arrière et quand je rouvre certains de ces ouvrages, je vois tous les défauts, hein, c'est normal quand on progresse. Mais non, je les voilà, ils ont toujours une place importante dans mon cœur et je les aime toujours autant, même si je communique moins dessus que sur ce que j'ai pu faire depuis 2020 avec l'Archipel, qui est un travail beaucoup plus professionnel, enfin un travail. Sont des écrits beaucoup plus professionnalisés, où il y a eu un accompagnement éditorial, toute une équipe autour. Donc, c'est pas du tout le même genre de production que ce que j'ai pu faire toute seule.
Que ce soit le polar, le thriller ou le roman noir, le point commun, c'est la couleur, c'est le noir. Une couleur à laquelle tu sembles très attaché, que ce soit celle de tes vêtements ou de ton maquillage, par exemple. Hein. Alors, pourquoi le noir?
Pourquoi le noir? Alors, comme je disais, déjà, j'en ai. Enfin, j'ai toujours lu du roman noir et j'ai toujours, moi, été attirée plutôt par l'obscurité plutôt que par la lumière. Même si je suis quelqu'un qui aime beaucoup s'amuser, qui aime rire, qui aime faire la fête, et qui suis de nature sociable et joviale, je suis par contre attirée et fascinée par l'obscurité, que ce soit en art, en musique, dans ce que j'écris et dans ce que je lis, bien sûr, ou même au cinéma. Et comme tu le soulignes aussi parfois dans ce que je porte, c'est vrai que c'est plutôt la pénombre qui va m'intéresser, parce que la pénombre, c'est synonyme de fragilité, de faille, et que c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que j'aime voir, par exemple, au cinéma. Par exemple, je pense à un film comme Black Swan de Darren Aronofsky, où vraiment c'est un travail sur l'ombre et la lumière. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est de travailler sur cette part d'ombre de l'être humain et ce qui peut se cacher derrière l'ombre, derrière les ombres des êtres humains.
Entre 2020 et 2023, donc tu as publié 4 romans et le succès a été au rendez-vous. Ça t'a surpris? C'était une sorte de récompense de tout le travail effectué avant?
Alors oui, c'est toujours surprenant. C'est déjà toujours surprenant de voir son roman un peu partout au hasard des librairies dans lesquelles on passe. Ça, c'est toujours surprenant d'être en balade, je dis n'importe quoi, dans le sud de la France et puis de tomber sur son propre livre en rayon. Voilà, c'est toujours une grande surprise. Après, c'est une carrière qui se construit doucement, mais sûrement, j'ai envie de dire. Donc, il y a eu aussi le confinement en 2020. Mon roman est sorti, L'Art du Meurtre, en janvier 2020, et les librairies ont fermé en mars 2020. Donc, c'est vrai que ma carrière d'autrice, mes débuts d'autrice ont été un petit peu entachée par ce confinement, hein, parce que bah, il n'y avait plus de libraire pour vendre mes romans, et puis ceux des autres, bien sûr. Donc, je n'ai pas eu cet effet « waouh » entre guillemets du premier roman, parce que bah, les ventes ont été bien ralenties. L'effet « waouh », il est plus arrivé en 2021, en fait, avec « Le sang des Belasco », où là, bah, il n'y avait plus de confinement, bien sûr, et où mon roman a très vite trouvé son public. C'est un roman qui est très universel, je le présente souvent comme ça, parce qu'il traite de la famille. Et je pense que beaucoup de gens se sont retrouvés dans ce roman, ont retrouvé du moins certains penchants, certains côtés de leur famille. Et en plus, j'ai Gérard Collard à l'époque qui l'a énormément soutenu, énormément porté, et ce qui a beaucoup mis en avant le sang des Belasco. Là, quand vraiment les ventes ont commencé à décoller, ben c'est hyper grisant. Et en même temps, on est toujours un petit peu, on se sent toujours un peu fragile en se disant que ben aujourd'hui, le succès est toujours un peu instable. C'est-à-dire qu'on peut arrêter, on peut cesser de plaire du jour au lendemain. On est dans une société où tout va très vite, où tout change très vite, où une actualité en chasse une autre. Donc voilà, grisé par le succès grandissant, mais en même temps, succès aussi, il faut tempérer les choses. Hein. Je ne vends pas des centaines de millions de romans, hein. mais grisé et en même temps prudente. Prudente quant à la suite, parce que voilà, c'est vraiment un métier dans lequel il faut s'accrocher, il faut rien lâcher.
En tout cas, tu as pu profiter des salons et des rencontres, et puis tu as été très présente, moi je trouve, en 2022 et 2023.
Oui.
Et puis soudain, tu fais une pause, tu as besoin de recharger les batteries ?
Complètement, oui. C'est vrai que je me suis énormément investie en 2022-2023, justement avec ce succès de Le sang des Belasco qui m'a vraiment portée, m'a vraiment grisée et m'a donné envie de m'investir à fond. Chose que j'ai faite pendant, comme tu dis, 2022-2023, où j'ai fait beaucoup, beaucoup de salons. Donc voilà, j'en ai vraiment profité pour présenter mes quatre premiers romans chez l'Archipel, pour rencontrer mes lecteurs, pour rencontrer plein de libraires, plein d'organisateurs de salons. C'était vraiment des chouettes périodes. Mais je suis de nature à mettre les bouchées doubles, en fait, à ne pas me mettre de ne pas me fixer de limites et à me jeter à corps perdu dans le travail et dans mes engagements. Et du coup, bah forcément, ça a des retours de bâton, hein, qui est la fatigue, que ce soit même morale ou physique. Moi, j'ai eu des gros soucis de dos. Et voilà, le dos qui m'a dit non, mais là, t'en fais trop, arrête, il faut que tu lèves le pied. Donc voilà, c'est pour ça qu'en 2024, je me suis retirée aussi pour écrire le cinquième roman qui vient de sortir chez Verso. Mais c'est vrai que j'avais besoin de cette pause. Et j'avais besoin surtout d'être au calme pour écrire. C'est très difficile pour moi de concilier et côté promotion, et côté dédicace, et côté écriture, en sachant qu'aujourd'hui, je suis toujours directrice artistique en agence de communication. Donc, j'ai un métier à temps plein et qu'il faut concilier et ce métier et l'écriture, et que ce n'est pas toujours évident.
Tu avais sorti quatre romans entre 2020 et 2023 aux éditions de l'Archipel. Ce besoin de changement et d'évolution passait forcément par un changement d'éditeur.
Je compare ça souvent à une carrière professionnelle où, tu sais, parfois, même si on est bien dans une entreprise, il arrive un moment, en fait, où si on veut progresser ou prendre une autre direction, il faut qu'on change d'entreprise. Et là, c'était un petit peu pareil. Je pense que je me reposais peut-être un peu trop sur mes lauriers chez l'Archipel, que aussi je me mettais peut-être moins en danger et que j'avais besoin un peu de me rechallenger. Et voilà, la rencontre avec Glenn Tavenec, donc chez Verso, s'est faite dans cette dynamique-là. Et j'ai senti que c'était clairement quelqu'un qui allait me challenger, qui allait me pousser plus loin, qui était peut-être aussi plus en phase avec la direction que j'avais envie de donner à mes romans, qui était une direction un peu plus noire, un peu plus horreur, un peu plus psychologique aussi, un peu plus glauque. Et j'ai senti que Glenn était un bon client pour ça et qu'on allait pouvoir faire un bon chemin ensemble sur ces sujets-là et sur cette voie-là.
Ton nouveau roman donc s'appelle « Où tu seras reine » et est paru le 17 janvier 2025 aux éditions Verso. Alors, peux-tu nous raconter brièvement l'histoire ?
Oui, alors c'est l'histoire de Maude qui a 25 ans, qui vit une relation très fusionnelle avec sa mère. Et Maude est suivie par une psychiatre qui lui, pour des raisons que je n'évoquerai pas là pour ne pas spoiler, et un jour cette psychiatre lui dit « Écoutez Maude, moi je pense que votre relation avec votre maman est trop fusionnelle. C'est une relation qui finalement vous fait du mal à toutes les deux. Donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre un petit peu de recul et de ne pas vous appeler ni vous voir pendant une semaine. Voilà, faites le test et voyez comment vous vous sentez toutes les deux. » Donc les deux femmes s'exécutent un petit peu à contre-cœur, hein, parce qu'elles s'aiment vraiment beaucoup, elles ont un lien très fort. Sauf qu'en fait, au bout de quelques jours, la maman de Maud rompt ce contrat. Maud décide de se tenir, elle, à ce qu'elles se sont fixées, elle ne décroche pas. Et la maman laisse sur le répondeur un message complètement paniqué dans lequel elle dit « je l'ai tué ». Maud, bien sûr, alertée par la panique de sa mère, se précipite chez elle, dans cette maison qui est aussi la maison où Maud a grandi. Et quand elle va arriver sur place, là je ne vais pas en dire plus non plus pour ne pas spoiler, mais elle va aller de surprise en surprise et elle va parcourir la maison de pièce en pièce pour essayer de trouver des réponses sur son enfance, mais aussi pour trouver la réponse à ce hurlement de panique qui disait « je l'ai tué ». J'ai voulu un petit peu jouer à prendre le contre-pied de ce qui se fait d'habitude dans le polar ou dans le roman noir, où souvent on connaît la victime mais on cherche l'assassin. Là, pour le coup, on connaît l'assassin, enfin on se doute que c'est la mère, et Maud va passer tout le roman à chercher la victime, à chercher à savoir ce qui s'est passé.
Où tu seras reine, à Portea, donc une maison, comme dans ton roman Le sang des Belasco.
Oui.
Peut-on parler de huis clos familial, même si Maud, ton personnage principal, est seule dans cette maison ?
Oui, on peut quand même évoquer le huis clos. Alors, huis clos, c'est sûr, puisque vraiment, elle va passer 24 heures dans cette maison, entre les quatre murs de cette maison, vraiment à naviguer de pièce en pièce. Donc, le huis clos, on y est. Et familial aussi, puisqu'on a, même si, comme tu le dis, on a Maud qui est toute seule à arpenter la maison. Donc, c'est vrai que là, il y a une économie de moyens qui est extrême, hein, puisqu'on a une unité de lieu et on a même un seul protagoniste, qui est Maud, donc le personnage principal. Mais on a toujours l'ombre de la mère qui plane sur cette maison, et on a aussi des découvertes plutôt macabres, on va dire, qui vont égrener un petit peu la visite de Maud, et tout ça tourne autour de la notion autour du foyer familial, autour du secret de famille, autour de l'enfance. Donc c'est malgré tout un huis clos, même s'il n'y a qu'une seule personne, c'est malgré tout un huis clos familial, oui.
Quand on parle de personnages, les différentes pièces de la maison ne sont-elles pas aussi des personnages à leur manière ?
Ben oui, complètement. Ouais. Alors, la maison est un personnage. Les pièces aussi sont des personnages. Elles ont des indices à livrer. Elles ont des témoignages à apporter. Elles vont livrer leur propre point de vue aussi. Donc oui, c'est chaque pièce, presque autant de personnages qu'on peut ajouter au roman. Ouais, c'est complètement ça. Et on parle aussi de huis clos. C'est un huis clos physique. C'est-à-dire qu'on a Maud qui est toute seule dans la maison. Mais c'est aussi un huis clos psychique. Puisqu'on va être à huis clos dans la tête de Maud, dans le cerveau de Maud. Le récit est raconté à la première personne, au présent. Donc on va être en temps réel aux côtés de Maud. Et on va presque être, même plus qu'aux côtés de Maud, on va être dans sa tête en fait. On va être avec elle dans ses réflexions, dans ses ressentis, dans ses pensées. On va vraiment passer ces plus de 300 pages avec elle, dans son corps, dans sa tête. Et donc dans sa maison d'enfance.
Donc dans Où tu seras reine, tu abordes le sujet donc des rapports mère-fille et plus généralement les liens entre une mère et ses enfants et les difficultés pour les derniers de grandir et de quitter le nid familial. Cette possessivité maladive, tu l'as ressentie lorsque tu es partie de chez tes parents ?
Alors, moi j'ai grandi dans un foyer très aimant et en fait, ce roman est aussi né avec la réflexion: est-ce que parfois à trop aimer ses enfants et à trop vouloir les protéger, on ne les abîme pas ? Donc oui, j'ai ressenti une forme de possessivité, surtout de la part de ma mère, hein, qui n'avait pas envie, comme beaucoup de mères, j'imagine, de laisser l'oisillon quitter le nid, et aussi parce qu'il y avait de l'inquiétude, parce que ben voilà, on est dans une société. Alors maintenant, je suis un peu plus vieille qu'il y a 20 ans, mais et aujourd'hui la société change, hélas, pas toujours dans le bon sens, mais c'est vrai que je comprends qu'une mère puisse puisse angoisser à l'idée de voir sa fille à 18 ans prendre son appartement toute seule à plusieurs dizaines, centaines de kilomètres de la maison. Donc oui, j'ai ressenti cette inquiétude et cette possessivité, mais qui a toujours été bercée par un fond d'amour. Et c'est ça que j'avais envie d'explorer dans ce roman-là, c'est jusqu'où une mère ou un père peut aller au nom de l'amour qu'il porte à son enfant. Qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour le garder auprès de lui ou pour le garder en bonne santé ou pour qu'il ne lui arrive rien. Et de l'autre côté, c'est qu'est-ce qu'un enfant est prêt à accepter de la part de ses parents sous couvert d'amour. C'est-à-dire que parfois, on se dit bah non, mais c'est mes parents, en fait, c'est que de l'amour, ils ne peuvent pas me vouloir du mal, c'est pour mon bien. C'est souvent qu'on l'entend, ça, de la part des parents, c'est pour ton bien. Oui, mais parfois, l'amour peut aussi étouffer et peut couper les ailes.
Tu abordes aussi le thème de la schizophrénie, une pathologie psychiatrique chronique complexe. Comment travaille-t-on sur une telle maladie ?
Alors, c'était en effet très compliqué parce que c'est une pathologie, bon, comme beaucoup de pathologies psy, mais c'est une maladie qui est très compliquée, d'autant qu'elle souffre de pas mal de clichés, elle souffre de pas mal de fantaisies qui sont parfois créées un petit peu ou par le cinéma ou par la littérature. Donc voilà, il y avait toute une série de clichés autour de cette maladie qu'il fallait déjà débunker. Ouais, il fallait un petit peu décortiquer cette maladie pour vraiment expliquer au lecteur ce que ressentait Maud et ce dont souffrait réellement Maud. Et pour décrire ça au mieux, alors j'ai travaillé avec deux outils principaux. Le premier, alors il existe des centaines, des dizaines de milliers de livres sur la schizophrénie, bien sûr. Moi, j'en ai trouvé un très pertinent qui est le témoignage d'une femme, ses voyages en schizophrénie. Demain, j'étais folle. Et c'est une femme qui est aujourd'hui psychologue et qui raconte comment, quand elle était adolescente, on lui a diagnostiqué justement la pathologie de la schizophrénie. Et elle explique vraiment très bien tout son processus de la découverte de la maladie à comment on grandit avec cette maladie-là, comment on peut finalement exercer un métier et même être psychologue, je veux dire, c'est pas rien. Qu'est-ce qu'on ressent même concrètement au niveau des cinq sens? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qu'il me semble comprendre quand je suis schizophrène? Comment je fonctionne? Comment mon cerveau fonctionne? Donc là, vraiment, ce bouquin a été une source hyper riche d'inspiration et de documentation pour moi. Alors, j'ai lu d'autres textes sur la schizophrénie, mais celui-ci vraiment a été très, très pertinent pour ce que je voulais faire. Et le deuxième outil qui m'a énormément aidée, c'est une série de podcasts. Il n'y a pas un podcast, il n'y a pas une émission précise, mais tous les podcasts qui pouvaient toucher à la schizophrénie, notamment ceux qui donnent la parole aux personnes atteintes de schizophrénie. Où vraiment, là, on va avoir des témoignages de gens qui vivent avec cette maladie tous les jours, qui vont la décrire, qui vont en parler avec précision, avec pertinence. Voilà, tous ces podcasts, tous ces témoignages m'ont aussi énormément aidé pour dresser le portrait le plus précis possible et le plus juste possible de Maud.
Alors justement, tu as eu des retours de personnes souffrant de schizophrénie qui ont lu ton roman ?
Oui, alors j'ai eu pas des personnes directement atteintes de schizophrénie, mais des proches. J'ai eu plusieurs témoignages de proches de schizophrènes qui ont trouvé que c'était fidèle et bien rendu. J'aborde aussi un autre sujet, une autre pathologie dans le roman qui est le syndrome de Diogène. Et là aussi, j'ai deux personnes qui m'ont dit avoir des proches souffrant de ce syndrome-là et qui ont trouvé aussi le syndrome juste et bien rendu. Et j'ajoute par-dessus, j'ai de nombreux lecteurs qui travaillent en psy. Ce sont soit des psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, soit des personnes qui sont infirmières aussi en milieu psy. Et toutes ces personnes-là ont trouvé le roman aussi assez juste. Et c'est toujours c'est toujours un super compliment pour moi parce que j'ai vraiment à cœur d'être le plus juste possible. Parce que les maladies psy, comme je le disais à l'instant, voilà, ce sont des maladies qui souffrent de plein de clichés. Et j'ai pas envie de participer à ces clichés. J'ai envie d'être le plus juste possible avec les personnes qui souffrent de ces maladies. Donc, quand une psy, j'ai en tête Manon, qui est une lectrice, qui a aussi un blog, et voilà, une personne que j'adore, qui m'a dit, écoute, non, vraiment, c'est parfait, j'ai rien à dire, c'est juste. Bon, bah, ça, pour moi, c'est le plus beau des compliments, quoi. Arriver à être juste sur un sujet qui est pourtant pas simple, c'est vraiment une chouette réussite pour moi.
Lorsque tu as écrit ce roman, comment le vit-on ? On ne sort pas indemne d'une telle écriture ?
Alors, l'écriture a été compliquée parce que rester dans la tête de Maud et rester dans cette maison pendant un an au moins, c'était au bout d'un moment assez anxiogène. Il y avait notamment un passage, alors encore une fois, je ne vais pas spoiler, mais voilà, il y avait un passage du roman où à chaque fois que j'arrivais à ce chapitre, quand j'étais dans les phases de relecture et réécriture par exemple, dès que j'éteignais ce chapitre, qui est à peu près à la moitié du roman, j'avais comme un blocage. Du coup, j'arrêtais de travailler. Je laissais le roman de côté pendant une semaine, deux semaines, un mois. Et puis, quand je m'y remettais, au bout d'un mois, forcément, j'avais oublié toute la première moitié. Enfin, il fallait que je reparte du début. Donc, je recommençais ma réécriture, lecture du début. Et puis, à nouveau, j'arrivais à la moitié du roman avec ce chapitre un peu touchy, on va dire. Et j'avais à nouveau ce blocage. Donc, je laissais à nouveau le roman une semaine, deux semaines, un mois. Donc, ça a été très difficile. En fait, l'écriture a été compliquée. Parce que elle appelait aussi à une part de moi. Je pense que j'ai mis beaucoup de moi dans ce roman. J'ai mis certaines choses de mon vécu, alors qu'ils sont imagées et qui sont bien sûr fictives, enfin fictionnées, si on peut inventer un mot, mais j'ai mis beaucoup de moi, et c'est plus la période d'écriture qui a été compliquée que finalement l'issue. Quand j'ai vraiment mis le point final en me disant « bon bah là, il est propre, prêt à être présenté à l'éditeur, tout est fini, tout est OK », là, c'était un soulagement, mais vraiment le soulagement de la personne qui a fini son travail. Ouf, c'est terminé, c'est bon, il est prêt à être lu. Mais pas de souffrance, ni de nostalgie, ni de... Non, ça a plus été le processus d'écriture où il y a vraiment eu des difficultés et où parfois c'était éreintant parce que fallait vraiment que je plonge dans la psyché de Maud, il fallait vraiment que je me mette à sa place dans cette maison complètement dégueulasse, cernée par tout un tas de psychoses. Il fallait que mon récit soit glauque et sordide. Donc c'est vraiment quand j'avais les mains dedans et la tête dedans que ça a été le plus compliqué et le plus dur.
Quel est le retour de tes lectrices et de tes lecteurs? Ils ont été troublés à la fois par le contenu et le contenant?
Oui, alors clairement l'histoire, je pense, ne laisse pas indifférent. Alors on a bien sûr toujours ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas, et c'est normal parce que voilà, il en faut déjà pour tous les goûts, et puis si on avait tous les mêmes goûts, ce serait bien triste. En tout cas, dans ceux qui ont aimé, ils ont aimé être chahutés parce que c'est en effet un roman qui secoue. C'est pas forcément un roman facile à lire parce que j'aborde beaucoup de maladies psy. On est vraiment encore une fois à huis clos dans la tête de Maud, donc ça peut être très anxiogène. Il y a des scènes qui sont assez très sordides, à la limite parfois du gore et du très malsaine même parfois. Donc les lecteurs ont été secoués par ce roman, ont été secoués par l'histoire de Maud. Mais je crois aussi que quand on est lecteur de polar et de romans noirs, c'est quelque chose qu'on recherche. C'est-à-dire qu'on cherche à être, secoué. Moi en tout cas, en tant que lectrice de romans noirs, c'est ce que j'aime. J'aime quand un roman ne me laisse pas indifférent. Et souvent, quand les personnes qui n'ont pas aimé Où tu seras reine, invoquent justement ça, que ça les a trop secoués, trop chahutés. Et finalement, je le prends toujours comme une sorte de compliment, parce que je me dis qu'au moins le roman ne suscite pas l'indifférence et qu'il fait réagir et qu'il fait dresser les poils sur les bras. Je préfère susciter l'indignation ou même la colère d'avoir lu quelque chose de sordide plutôt que l'indifférence.
Ton prochain roman sera de quelle couleur ?
Rose avec des petites licornes. Non, il sera noir, bien sûr. Il sera noir peut-être autant que celui-ci, j'aimerais. J'aimerais vraiment qu'on soit dans les mêmes couleurs que Où tu seras reine, avec des thématiques qui seront sans doute communes. Voilà, je ne peux pas trop en dire plus pour l'instant, mais j'aimerais essayer de me lancer dans une sorte de trilogie qui viendrait s'inscrire à la suite de Où tu seras reine. Ouais, on sera toujours dans le roman noir.
Et envisages-tu un jour d'écrire autre chose que du polar, du thriller ou du roman noir ?
J'aimerais bien parce que je suis une touche à tout et j'aime bien, comme je le disais tout à l'heure, j'aime bien les challenges. Mais je ne suis pas sûre d'être capable de sortir de mes propres sentiers battus. Donc, quand j'étais en auto-édition, j'ai fait du fantastique et j'ai fait de l'anticipation. On sort un petit peu les pieds des codes du polar et du roman noir, même si on reste dans les littératures de l'imaginaire. On reste quand même un petit peu dans un registre voisin. Mais voilà, il ne faut jamais dire jamais. Et en tout cas, ça ne me déplairait pas d'écrire un roman comique, déjà. Ça, voilà. Après, ce n'est pas forcément facile de faire rire. Hein. C'est un sacré job, même. Mais voilà, jamais dire jamais. Et pourquoi pas pourquoi pas un jour m'essayer à autre chose. Voilà, je ne suis vraiment pas contre les défis, donc voilà, à pas peur, moi.
Bien. Bien, tout à l'heure, nous évoquions les séances de dédicace, et il est l'heure de passer à la rubrique quatrième de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle, là sur le quai, épaule contre épaule, sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure, sur les quatrièmes de couverture.
Quatrième de couverture, ce sont nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates des prochaines séances dédicaces. Christelle, quel est ton dernier coup de cœur littéraire ?
Alors, dernier coup de cœur littéraire, je viens de lire Rose Mallet, un roman qui s'appelle Et ensuite le silence, qui a paru aux éditions du Gros Caillou. Et c'est un excellent roman. C'est un roman noir, roman social, même on pourrait dire. C'est sur comment je pourrais vous dire ça ? C'est sur ce qui peut se cacher derrière les portes des maisons, c'est-à-dire que ce qui se passe dans le foyer et ce qu'on voit de l'extérieur. Ouais, derrière les portes closes, sur le point de vue aussi, qu'est-ce qu'on voit d'une histoire familiale en fonction du point de vue. Ouais, ça a été un super coup de cœur avec une écriture qui est très juste, qui est très vive, et avec une autrice, Rose Malet, qui est en plus adorable, très proche de ses lecteurs. Et voilà, elle a tout pour plaire.
Côté proposition de la quinzaine, notons le roman de Jean-Pierre Rumeau, Du feu de Dieu, aux éditions Tornada, le livre de Samuel Bourron, Politiser la haine, aux éditions La Dispute, le roman de Romain Potocki, Le jardin dans le ciel, aux éditions Albin Michel, le roman de Paul Lynch, Le chant du prophète, aux éditions Albin Michel, le polar de Caryl Ferret, Green Dadra, aux éditions Gallimard, le roman d'Ivan Strelzik, Les deux épées, aux éditions de l'Astronome, le polar de Bernard Minier, H, aux éditions XO, le roman de Momalo, La Bretz Brigade, ni français ni breton, aux éditions Point, le roman d'Isabelle Hopi, L'âge du capitaine, aux éditions du Penseur, le livre de Marie Bénilde, Le péril Bolloré, aux éditions La Dispute, le roman d'Arthur Roger, Jusqu'au bout de l'océan, aux éditions du Gros Caillou, le roman de Bathilde Bosseau, Les Saules, aux éditions du Seuil, le thriller d'Antitio Menen, Un castor de 18 mètres, aux éditions Fleuve Noir, le roman de Karine Sulpice, Les bons sentiments, aux éditions Liana Lévy, le roman de Roberto Saviano, Giovanni Falcone, aux éditions Gallimard, et le roman de Jean Echenoz, Bristol, aux éditions de Minuit. Pour terminer l'émission, les dates de rencontres et de séances dédicaces. Christelle, as-tu des rencontres et séances de dédicaces dans la région proche à annoncer?
Non, je ne vais pas avoir de région très très proche.
L'Isère, c'est pas trop loin de chez nous.
L'Isère, c'est pas très loin, c'est
oui.
Vrai. Alors oui, c'est vrai. Alors oui, il y a Saint-Chef, du coup. Hein.
Voilà.
Merci de me... Tu vois, je suis piètre, hein. Je suis piètre en géographie.
Oui, oui.
Il y a le salon de Saint-Chef, en effet, 100% polar, en Isère, qui se tiendra le samedi 14 juin et dimanche 15 juin. Et moi, j'y serai le samedi. Pas le dimanche, non, juste le samedi. Mais voilà, il y a une très belle programmation et j'ai hâte. C'est un très beau salon en général, donc j'ai vraiment hâte d'y être.
Du côté des séances dédicaces dans la région proche, le samedi 17 mai 2025 à Valexpo à Oyonnax, le deuxième salon En route pour l'été avec Georges Arpin à partir de 10h. Au Cultura à Bourg-en-Bresse, David Petit-Laurent. Et à la librairie Buffet à Oyonnax, Romain Potocki, de 9h30 à 12h. Le vendredi 23 mai, à la médiathèque Oyonnax, Cécile Baudin, à 18h30. Et pour terminer, le samedi 24 mai 2025, à l'espace culturel Leclerc à Bénaud, Cécile Baudin, et au square du jardin de l'église de Montchat à Lyon, le salon du livre de Montchat avec Arnaud Delâtre, de 9h à 18h. Et bien, Roman de Gare, c'est terminé pour aujourd'hui. Christelle Duchamp, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Roman de Gare.
Ben, grand merci à toi et un grand merci à toute l'équipe et aux auditeurs.
Rappelons que ton nouveau roman « Où tu seras reine » est paru le 17 janvier 2025 aux éditions Verso. On peut se procurer un peu partout, sans oublier les quatre autres romans.
Oui, on peut se le procurer partout. Il est dans toutes les bonnes librairies. Si votre libraire ne l'a pas, n'hésitez pas à le commander. C'est toujours chouette. Il est dispo au format book aussi, e-book. Et apparu aussi fin janvier, « L'île des souvenirs ». Chez Point, au format poche.
On peut suivre ton actualité sur Internet via les inévitables réseaux sociaux.
Exactement, Instagram, Facebook, et que les lecteurs n'hésitent jamais à venir m'envoyer un petit message en privé, j'y réponds toujours avec plaisir.
Voilà, la prochaine invitée de Roman de Gare le jeudi 29 mai 2025 sera l'autrice francilienne Cécile Baudin. Tu connais?
Ouais, très bien. Elle vient d'avoir une sortie il n'y a pas longtemps, là.
Tout à fait. Elle viendra nous présenter son troisième roman, Dur comme fer, paru le 20 mars 2025 aux éditions Presse de la Cité. Bien, Christelle, bonne chance pour la suite de tes aventures d'autrice.
Un grand merci à toi, Michel.
Bonne séance dédicace. Et puis, à bientôt sur Radio B.
Ouais, merci, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.